Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce dernier numéro de Nous voilà bien de la saison. Chaque samedi matin de 9h15 à 10h, nous avons pris un grand plaisir à vous retrouver pour ce qui est devenu finalement un véritable rendez-vous du samedi matin entre vous et nous. Mais avant de faire une pause de quelques semaines pour mieux nous retrouver fin août, eh bien on termine cette année en beauté sur RTL et place au sommaire. Il est censé nous assurer un été riche de belles activités. Comment fonctionne le pass sanitaire? Sophie Jousselin, chef adjointe du service qualité de vie à RTL, répond à toutes nos questions. Les herbes aromatiques, c'est sympa. Les herbes aromatiques originales, c'est extra. Alors que peut-on faire pousser dans sa cuisine pour parfumer nos plats avec exotisme? Suivez le guide Pierre Nesman, paysagiste et rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique. C'est l'été et l'été, qu'aime-t-on manger? Des glaces, bien sûr. Et rien de mieux qu'une glace maison. Comment la réussir à coup sûr? Angèle Ferremag, chef et naturopathe, nous donne tous ses trucs et astuces. C'est sûr qu'avec Maître Gims, c'est toujours plus facile de rentrer en boîte. Hein. Mais bon, on n'a pas toujours Maître Gims sous la main cet été, mais on aura un pass sanitaire. Bonjour Sophie Jousselin.
Bonjour Flavie, bonjour à
tous. Merci d'être avec nous, je le disais, vous êtes chef adjointe du service qualité de vie à RTL. Est-ce que le pass sanitaire est plus efficace pour rentrer en boîte et pour vivre normalement que Maître Gims?
On verra, de toute façon, il faut peut-être les deux.
Oui, jamais, écoutez, hein. En tout cas, moi j'en ai un, c'est le pass sanitaire. C'est quoi le pass sanitaire?
Alors le pass sanitaire, en quelque sorte, c'est ce sésame qui va vous permettre d'assister en France à des événements qui rassemble plus de 1000 personnes, alors les salons, les spectacles, les rencontres sportives, qui va aussi donc vous permettre à partir du 9 juillet d'entrer en discothèque. Et aussi dans sa version européenne, c'est ce pass sanitaire qui vous permet de voyager en Europe. Alors à quoi il correspond exactement ce pass sanitaire? Il y a trois exigences sanitaires qui peuvent constituer votre pass sanitaire. D'abord, la vaccination complète, c'est-à-dire 2 semaines après la deuxième dose ou après la première si vous avez déjà eu le Covid, et 28 jours après la dose unique du vaccin Janssen. Ça peut aussi être un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures ou 72 heures si c'est pour l'Europe. C'est assez compliqué, c'est un peu usine à gaz.
Ouais.
Et puis ça peut aussi être une preuve que vous avez déjà eu le Covid il y a moins de 6 mois et plus de 15 jours. Et pour ça, il faut présenter un ancien test positif qui montre que vous avez eu le Covid. Et à ce moment-là, vous êtes considéré comme partiellement immunisé ou immunisé. Et donc, ça fait partie du pass sanitaire.
Ok, alors, mais il se présente sous quelle forme, le pass sanitaire?
Alors, il y a deux formes possibles. Soit sous format papier, c'est-à-dire votre certificat de vaccination, mais pas les anciens, ceux qui ont le QR code.
D'accord.
Alors, si vous avez été vacciné avant le 9 mai, vous avez eu un papier sur lequel il n'y avait pas du tout de QR code. Donc, vous devez aller sur le site attestation-vaccin.amélie.fr.
D'accord.
Et là, vous récupérez votre certificat de vaccination avec le QR code.
Pour le test... pas simple.
Non, c'est une usine à gaz. Pour le test PCR, si vous le faites en ce moment, vous récupérez un certificat avec un QR code, donc ça pose pas de problème. Pour récupérer un ancien test positif, il faut aller sur le site cidep.gouv.fr.
Alors moi, vous savez quoi, je suis paumée. Alors j'entends tout ce que vous nous dites et toutes les informations sont très précieuses, hein, Sophie Jousselin. Mais en fait, ce pass sanitaire, ça va, c'est quelque chose de simple qui se présente soit sous la forme d'un papier qui va attester finalement que je peux me déplacer ou rentrer en discothèque ou voyager, qui va attester que je ne porte a priori pas le Covid, soit parce que j'ai été vaccinée en temps et en heure, soit parce que je l'ai déjà eu et j'ai eu ma première injection, soit parce que j'ai des tests PCR négatifs.
Exactement.
Voilà. Donc là, c'est bon. Mais ce pass sanitaire, en fait, je le présente comment? Donc c'est, admettons, j'ai envie de voyager ou j'ai envie d'aller en discothèque. Je ne sais pas pourquoi, parce que la discothèque, ça me fait frétiller parce que ça fait quand même très très longtemps. Donc, j'arrive et je présente ce papier ou je présente aussi mon téléphone.
Et ben, l'un ou l'autre, c'est comme
c'est
vous
ça.
Voulez. Si
D'accord.
vous ne voulez pas utiliser l'application anti-Covid, vous présentez soit votre test, soit votre certificat de vaccination, soit votre ancien test avec le QR code.
Ok.
Ça, c'est la version papier.
D'accord.
Si vous voulez pas vous embêter avec tous ces papiers, vous prenez l'attestation anti-Covid, vous flashez une fois pour toutes soit votre certificat de vaccination, soit votre test anti-Covid, et quand vous arrivez, vous présentez votre téléphone, avec une pièce d'identité toujours.
D'accord, très bien. Donc ça, c'est mon sésame, m'avez-vous dit, pour pouvoir vivre le plus normalement cet été. Qui concerne-t-il, ce pass sanitaire? Est-ce qu'il concerne aussi les mineurs?
Alors, il est obligatoire à partir de 11 ans.
Ok.
Donc d'accord. À partir de 11 ans, il faut avoir son pass sanitaire. Alors, les enfants n'ont pas forcément un téléphone avec un smartphone et avec l'application tous anti-Covid. Les parents peuvent mettre plusieurs personnes sur leur application anti-Covid.
D'accord.
Ou autrement, les enfants peuvent avoir la version papier, ça pose pas de problème
et
non plus.
Admettons que je voyage donc cet été, que j'ai des enfants donc mineurs, que j'en ai un de 8 ans, donc moins de 11 ans, donc là il a pas besoin du pass sanitaire.
Non.
J'en ai un de 12 ans qui n'a pas encore été vacciné, j'en ai un de 15 vaccinés. Et mon mari est vacciné.
D'accord.
Bon, alors...
Non, mais il n'y a pas de souci.
Elle est contente de s'être levée ce matin, Sophie Jocelyn.
Celui qui a 12 ans et qui n'est pas vacciné,
voilà, comment ça se passe?
Vous lui faites faire un test.
Voilà, c'est ça.
48 heures ou 72 heures, ça dépend des pays.
Ouais.
Vous faites faire le test.
Okay.
Et vous pouvez l'intégrer à votre application anti-Covid.
Okay.
Celui qui a 15 ans est vacciné, soit
d'accord,
il a son téléphone avec son application anti-Covid, soit vous l'intégrez dans la vôtre.
En fait, il faut que mon pass sanitaire me permette à un moment donné d'aller partout et que j'ai fait toutes les étapes nécessaires à l'accession. Les autotests, vous étiez venu dans cette émission.
Absolument.
Et vous m'aviez fait tester l'autotest. Je me souviens très bien, ma narine s'en souvient et vous remercie. Les autotests permettent aussi l'accès au pass sanitaire?
Pas du tout.
Ah,
pas du tout. L'autotest, il est vraiment juste pour vous, pour vous donner indication. Il n'y a rien d'officiel.
Donc il faut faire un test PCR officiel.
C'est PCR ou antigénique. Certains pays pour l'Europe n'acceptent pas les antigéniques. Donc il faut toujours se renseigner. Même si on a le pass sanitaire, on pense être bien carré, il faut toujours vérifier le pays, avant d'aller dans le pays de ses vacances, vérifier les exigences, parce que ça peut être un test antigénique, le test antigénique peut ne pas être accepté, ça peut être un test de moins de 48 heures ou moins de 72 heures, il faut être prudent et toujours
vigilant.
Vérifier.
Absolument. Très bien. Les lieux concernés, vous nous avez dit, donc les discothèques à partir du 9 juillet, les musées, là ça y est, il n'y a plus de jauge, depuis 48 heures,
alors,
plus de jauge
tous
en France.
Tous les lieux, tous les événements qui vont rassembler plus de 1000 personnes.
Okay.
Donc ça peut être les salons, ça peut être les rencontres sportives par exemple, il a été utilisé à Roland-Garros.
Ok, d'accord. Les festivals cet été, Avignon.
Partout il y a du monde, il y a
très
plus de 1000 personnes.
Mais on n'aura pas de problème pour accéder au restaurant, on n'aura pas besoin d'un pass sanitaire.
Non, pas du tout besoin.
Est-ce qu'on doit l'utiliser à partir de maintenant en fait
il est le pass sanitaire français, il est qui permet de se déplacer en France, d'aller à ces événements. Il est déjà en service depuis plusieurs semaines puisqu'on l'a utilisé à Roland-Garros. Le pass sanitaire européen, il est en vigueur depuis le 1er juillet, donc avant-hier.
Hein.
Donc il est en vigueur.
Ouais. Ok, très bien. Il a une durée de vie limitée, mon pass sanitaire?
Alors, il a une durée de vie sur le plan juridique. Il est en service jusqu'au 30 septembre. Après, il peut être prolongé, il peut être...
Donc, pour l'instant, on passe l'été.
Pour l'instant, on passe l'été avec le pass sanitaire, pour l'instant, sauf hors contre-ordre. Mais pour l'instant, il est en vigueur.
Bon, cette pause va être beaucoup plus rapide que l'été qui nous attend. On se retrouve tout de suite sur RTL avec Sophie Chousselin. Encore quelques questions avec Pierre Nesman qui va nous parler des plantes aromatiques originales, exotiques. Et oui, et puis une bonne petite glace, parce que la météo commence tout juste à s'y prêter. Il paraît que c'est l'été. Allez, à tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
C'est la dernière de la saison de Nous Voilà Bien. Merci pour votre fidélité tous les samedis matins avec nous de 9h15 à 10h sur RTL. Pierre Nesman va nous emmener du côté des plantes aromatiques exotiques dans un instant qu'on peut faire pousser chez soi. Angèle Ferromac va nous apprendre à faire des bonnes glaces maison. Mais pour l'heure, si vous voulez sortir, il vous faut votre passe.
Laisse passer.
Et le rêve pour certains, c'est de vivre de plus en plus normalement et de profiter de cet été. Avec vous, Sophie Jocelyn, chef adjointe du service qualité de vie à RTL, nous parlons donc de ce fameux pass sanitaire, parce que tout le monde en parle, mais on ne sait pas véritablement ce que c'est, et ça peut en impressionner certains. On nous pose des questions, on nous demande si tous les vaccins sont acceptés dans le pass sanitaire.
Alors, tous les vaccins qui sont autorisés par l'Agence européenne du médicament, à savoir le Pfizer, le AstraZeneca, le Moderna et le Janssen. Les autres ne peuvent pas être intégrés, ne servent pas de pass sanitaire.
Très bien. On insiste auprès de ceux qui nous écoutent qu'il faut faire attention aux exigences des différents pays si vous souhaitez voyager cet été.
Absolument. Tous les pays acceptent le pass sanitaire, mais n'ont pas forcément les mêmes exigences. Certains pays peuvent ne pas reconnaître, par exemple, le test antigénique. Donc, il ne faut pas que vous mettiez dans votre application anti-Covid le résultat d'un test antigénique, ça ne marchera pas. Certains exigent un test fait 48 heures à l'avance, d'autres 72 heures. Donc, il faut pour chaque pays dans lequel on se rend, vérifier sur le site diplomatie.gouv.fr. Tout est marqué. marquer, savoir par destination les exigences.
Alors ce qui est de fou en fait, c'est que cet été, ou à partir de cet été, je ne sais pas, dans notre voyage, on devra prévoir aussi ce fameux pass sanitaire, quelques masques au milieu des maillots de bain. Quoi, voilà.
Et c'est comme ça.
Ça devient de plus en plus sexy les valises. Dernière question, la personne en fait qui scanne mon pass sanitaire sur mon téléphone, qu'est-ce qu'elle va voir de moi? Parce que je pense effectivement ces pays étrangers dans lesquels on peut voyager, et puis en même temps cette personne à l'entrée d'un concert, quelle info a-t-elle?
Pas grand chose en réalité.
Ah bon, tant mieux.
Je vais faire une démonstration, parce qu'il existe une application qui est destinée justement pour les personnes qui vont scanner les QR codes. Donc cette application, on peut la trouver très facilement, donc on va l'utiliser. J'ai un QR code.
D'accord.
En réalité, c'est mon certificat de vaccination. Je vais le scanner. Et voilà ce que dit exactement le scan. Il y a marqué « valide ».
Ah oui, c'est tout.
Il y a marqué mon nom, mon prénom, ma date de naissance, parce que la personne, normalement, doit...
Donc je vois, vous êtes née en 78,
voilà,
Sophie
Jousselin. Très, très
jeune. Voilà. Et que vous êtes beaucoup plus jeune que moi,
parce
mais que
faut...
vous êtes... Vous pouvez passer partout.
Voilà, il faut que la personne puisse vérifier que c'est bien moi.
Voilà,
en réalité,
c'est ça.
Donc il y a mon identité, il y a juste
y a
marqué
rien.
Valide. Elle ne sait pas, en réalité, si j'ai présenté un certificat de vaccination, si j'ai présenté un test, nouveau ou ancien. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'il y a marqué valide et que je peux rentrer.
Voilà, très bien. Donc ça veut dire qu'effectivement, on n'a pas à s'inquiéter en tout cas de la protection de nos données personnelles quand il s'agit de scanner notre passe sanitaire.
Rien n'est stocké, aucune information n'est stockée.
Merci beaucoup de nous avoir parlé de ce sésame, Sophie Jousselin. Je vous laisse rejoindre la rédaction d'RTL. C'est pas trop loin. Vous avez besoin d'un passe ou vous
non,
avez votre badge?
Bon.
D'accord,
bon,
elle a son badge RTL.
Tout
va très bien. Okay. Et ouais. Puis nous, on va faire un petit côté du côté justement de nos jardins avec Pierre Nesman. Merci Sophie, à tout de suite sur RTL.
Bonne vacances.
J'aime le bas du lit.
Moi aussi j'aime le basilic. Bonjour Pierre Nesman.
Bonjour Flavie, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. On vient d'entendre le groupe Qualité Motel. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un groupe québécois qui chante. C'est pas du romarin, c'est du basilic. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on avait envie de l'entendre. Pierre Nesman, vous êtes paysagiste, rédacteur en chef, adjoint de Rustica Pratique. Les herbes aromatiques, ça met du goût dans nos assiettes. Mais en fait, il y en a plein qu'on ne connaît pas.
Alors oui, effectivement, il y a de quoi être surpris. Alors souvenez-vous, Flavie, il y a quelques mois, nous avions évoqué ensemble les fines herbes, vous savez, le persil, oui, la ciboulette, l'estragon, on avait parlé du bouquet garni, le laurier sauce, le thym, le romarin et bien sûr le basilic. Mais savez-vous qu'il existe plein d'autres plantes aromatiques qui vont sortir de l'ordinaire et que souvent on les côtoie, on les connaît, on connaît les saveurs, mais on ne sait pas très bien les nommer, on ne sait pas de quelle plante il s'agit.
Ça veut dire qu'en fait, on les trouve parfois dans des assiettes quand on va au restaurant, mais on est incapable de savoir ce que c'est.
Exactement, effectivement, c'est au restaurant et notamment dans des cuisines, dans la cuisine asiatique, la gastronomie asiatique, que l'on va découvrir ces saveurs qui sont souvent assez épicées, assez prononcées.
J'adore.
On les mémorise, mais après, effectivement, on n'a pas les plantes, on ne connaît pas les plantes qui produisent justement ces saveurs.
Vous allez nous les faire découvrir justement. Elles ont des saveurs surprenantes parfois. Hein. Ça change tout
oui.
un plat. Hein.
Oui, effectivement. Alors, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, quand on est dans un restaurant asiatique, eh bien, on est habitué, on est un petit peu surpris. Mais ce qui est très intéressant, c'est souvent de l'associer à notre gastronomie de terroir,
bien
à
sûr.
Notre gastronomie régionale. Parce que là, on va apporter une note exotique, on va apporter des saveurs particulières, on va révéler des fragrances, des saveurs. Et ça, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, les grands cuisiniers font souvent des associations avec des plats traditionnels européens ou français et des épices qui sont plus exotiques.
Bon, ça va, vous nous faites voyager maintenant, parce qu'en plus, ces plantes aromatiques, on peut y accéder assez facilement, hein, je dirais. Hein. On n'est pas obligé de prendre un avion.
Non,
ça n'a pas un bilan carbone de dingue. Quoi. On peut en avoir à côté de chez soi.
On peut en avoir chez soi. Effectivement, vous avez des pépiniéristes qui les cultivent. Et puis, ces pépiniéristes, il y en a quelques-uns qui sont spécialisés en France. Il y a notamment Katia et Laurent Bourgeois qui sont pépiniéristes dans la Drôme. Il y a une pépinière qui s'appelle Aromantique. La pépinière également Éric Deloulet dans le Loiret. Alors, eux ont des plantes aromatiques traditionnelles, mais ils ont aussi une collection de plantes exotiques particulières pour justement proposer aux jardiniers des saveurs qui sortent de l'ordinaire.
Alors justement, quelles sont-elles ?
Alors moi, je vous conseille, pour commencer, il y a le basilic thaï. Est-ce que vous le connaissez ?
Bah,
c'est un petit basilic.
Je le mange. Moi, je le mange comme ça, le basilic thaï.
C'est une plante vivace, alors effectivement, qui gélive, attention, elle ne tient pas dans nos régions, dans nos climats, il faut la rentrer en hiver sous abri. C'est une saveur qui est très prononcée, saveur de cannelle, d'anis, de camphre. Alors on l'utilise évidemment dans la cuisine thaïlandaise, on va l'associer aux crustacés, aux wok de poulet, aux bœufs piquants, mais aussi à des sauces, des omelettes. C'est une épice qui est très intéressante, qu'on peut même utiliser dans des sorbets, dans des salades de fruits exotiques.
J'adore. Et ça peut vraiment, pardon, hein, d'insister, mais oui. Même quand on fait des petits, vous savez, des petits appetizers, des petits canapés l'été, plein de petits trucs pour l'apéritif et tout, vous mettez juste, parce que c'est très puissant, hein, le basilic thaï, oui. Vous mettez juste un tout petit morceau de feuilles de basilic thaï sur ces petits canapés et ça change tout.
Ça explose en bouche, effectivement. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une plante vivace un peu arbustive qui gélit. Ouais. Donc, on va la cultiver au jardin en été, mais en hiver, il faut la rentrer sous abri. Okay. Autre plante intéressante, c'est la coriandre vietnamienne. Alors, ouais. On l'appelle aussi le raoram. C'est une plante vivace qui gélive elle aussi. Donc, il faut la rentrer en hiver. Et elle exhale un parfum très, très prononcé de citronnelle et de coriandre. Alors, on l'utilise beaucoup dans la cuisine pour parfumer les salades, les canards, les fameux nems et les rouleaux de printemps, et puis la soupe chinoise également. Mmh. Autre plante un peu plus facile à cultiver, le tulbalgia. Alors le tulbalgia, moi je l'aime beaucoup parce que esthétiquement il est assez joli. On dirait une agapanthe. Alors l'agapanthe, vous savez, ce sont ces fleurs bleues portées par une tige avec des feuilles un peu linéaires qui poussent en buisson. Eh bien c'est exactement cette silhouette mais en plus petit. Et l'avantage du tulbalgia qui est originaire d'Afrique du Sud, c'est qu'il a une odeur d'ail mais beaucoup plus doux. Et ça c'est intéressant. Moi je supporte pas très bien l'ail traditionnel et le tulbalgia. Il va donner une petite saveur très légèrement aillée, très subtile, très fine. Et on va l'utiliser sur des amuse-bouches, sur de la salade. On va pouvoir aromatiser du beurre ou des sauces avec. C'est intéressant parce qu'elle est aromatique, mais c'est aussi une très belle plante d'ornement qu'on peut avoir au jardin ou sur son balcon.
On se retrouve dans un instant, parce que je vous sens bien parti là.
Avec plaisir.
Alors on va marquer une courte pause. Vous pouvez reprendre votre souffle, Pierre Nesman. Et on se retrouve tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà habité. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bientôt, il va faire beau, il va faire chaud, il va faire très très chaud. On aura envie d'une bonne glace maison. C'est Angèle Ferrema qui va nous donner les recettes. Mais pour l'heure, on parle des plantes aromatiques exotiques avec Pierre Nesman.
Moi, je m'appelle Ciboulette, c'est un nom qui plaît aux garçons.
D'ailleurs, j'étais en train de me dire, Pierre Nesman, les plantes aromatiques, on peut même les mettre sur une boule de glace d'Angèle Ferrema, hein.
Ah, complètement. Justement, finement ciseler certaines d'entre elles. On parlait tout à l'heure du basilic thaï. Exactement. On peut les associer très finement ciselées. Au contraire, ça va faire des parfums, des associations. C'est vrai que je suis un peu bousculé. Alors, des associations de parfums assez intéressantes.
Alors, on en était au tulbalgia. On a passé le tulbalgia. Petite plante très, très jolie qu'on peut avoir aussi sur son balcon qui fait des petites fleurs violettes. C'est ravissant sur une salade aussi. Et ça a un goût d'ail très, très adouci. Hein. Et c'est vrai que c'est très très bon. Et puis c'est chouette de manger des fleurs. Qu'est-ce qu'il nous reste encore ?
Alors, la citronnelle de Madagascar, très très connue aussi. On l'appelle la citronnelle de Java, la verveine des Indes. Alors ça, c'est une plante herbacée exotique, très gélive. On ne va pas pouvoir la cultiver sous notre climat à l'extérieur. Il faut vraiment la cultiver dans une serre. Eh bien, les feuilles, les tiges ont un goût très prononcé de citron. Et là aussi, on va l'utiliser très finement ciselé dans la cuisine traditionnelle asiatique pour aromatiser des crudités, de la salade, des marinades, des currys, des potages et des bouillons.
Très bien.
Et puis, je voudrais aussi vous parler de la menthe chinoise. Alors, la menthe chinoise, elle est facile à cultiver dans nos jardins parce qu'elle est tout à fait rustique. Elle va pousser de manière très facile dans nos jardins, un petit peu comme la menthe anglaise ou la menthe marocaine. Mais à la différence des autres menthes, elle a une saveur très, très prononcée. C'est justement ces feuilles de menthe qu'on utilise quand on consomme des nems, par exemple, ou quand on consomme des infusions ou du chou chinois ou du poulet mariné. C'est une menthe qui est très, très forte. Et donc, elle est assez intéressante et surtout très facile à cultiver dans nos jardins. Est très rustique.
Alors, le patchouli, je ne connais pas. Enfin, je connais l'odeur du patchouli, mais je ne connais pas le patchouli dans la cuisine.
Alors, dans la cuisine, on l'utilise essentiellement en parfumerie, mais on peut de temps en temps utiliser le patchouli. Alors, en fait, c'est un extrait de feuilles, c'est de l'huile essentielle, et on va utiliser quelques gouttes avec cette odeur très particulière, un peu boisée, terreuse et fumée, quelques gouttes pour aromatiser des boissons, des desserts et des plats cuisinés. Mais ça, c'est surtout dans la cuisine asiatique. Mais il faut en mettre très, très peu, parce que c'est vrai que ça a une odeur très particulière qui peut un peu nuire, en fait, au reste des aliments.
Un dernier pour la route ?
Alors un dernier pour la route, je vais vous proposer le piment de Cayenne. Le piment de Cayenne, c'est une plante annuelle, très facile à cultiver pour les jardiniers, un petit peu comme les tomates ou les aubergines. C'est un piment qui est très très fort, c'est l'un des 10 piments les plus forts au monde. Il a une saveur qui est très épicée, qui est chaude et qui va relever effectivement de nombreux plats, les légumes au wok, les poissons, des sauces telles que l'harissa effectivement. Et on va également l'utiliser en dessert en l'associant avec des gâteaux au chocolat.
Eh, ça faut oser. Et dites-moi, j'étais en train de me dire, tout ça doit faire rêver nos auditeurs. Alors quand on est en ville et qu'on a des épiceries asiatiques, on peut trouver du basilic thaï, de l'amande chinoise, de la coriandre vietnamienne. Donc sinon, vous nous dites qu'on peut aussi en trouver en ligne ou dans des...
Chez les pépinières spécialisées,
merci.
Oui, tout à fait. Oui, absolument.
C'est ce que je cherchais. Voilà, mais il faut chercher le spécialisé.
Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, la gamme qu'on va trouver dans les jardineries, c'est une gamme traditionnelle. C'est ces fameux bouquets garnis et ces fines herbes que l'on trouve au printemps. Si on veut aller un petit peu plus loin, il faut effectivement aller sur Internet, prospecter un petit peu, chercher. Et comme je le disais, il y a quelques spécialistes comme Aromantique, entre autres, dans la Drôme, qui est spécialisé dans ces plantes-là, qui font de la vente par correspondance, bien entendu, à partir d'Internet. Et donc, on peut se procurer ces plants un peu particuliers.
Et une fois coupées pour être cuisinées, elles ont une durée de vie limitée, non ?
Non, parce que en fait, ce sont des plantes vivaces. Ce sont des plantes, si on arrive à les garder d'une année à l'autre, c'est-à-dire à leur faire passer l'hiver, parce qu'elles sont gélives, eh bien, on va pouvoir, à fur et à mesure de la récolte, eh bien, elles vont continuer à produire des tiges et des feuilles. Donc, il va y avoir une récolte pratiquement continue tout au long de l'année. Puis, si on arrive à leur faire passer l'hiver, l'année d'après, eh bien, on peut poursuivre la culture et la récolte.
Et une fois n'est pas coutume, on va faire venir Angèle Ferromac tout de suite, avant même de l'accueillir après son jingle. Je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour, Angèle.
Bonjour.
Ça n'était pas prévu, mais je sais que vous attendiez tranquillement votre tour. Vous entendez Pierre Nesman. Soyez la bienvenue, Angèle. Vous êtes chef, on va vous retrouver dans un instant pour parler des glaces. C'est intéressant tout ce que nous explique Pierre Nesman sur ces plantes, et j'imagine qu'on peut faire des infusions, on peut faire plein de choses aussi.
Mais c'est passionnant, et j'étais d'ailleurs justement en train de prendre des notes en me disant que ce serait très bon dans des glaces, une glace à la menthe chinoise par exemple, le patchouli en infusion, ou même séché et après émietté sur un plat, un risotto, des légumes rôtis, etc. Enfin, tout me donne envie.
Et il n'y a pas que les feuilles qui sont intéressantes, on peut manger la tige aussi.
La tige, oui. La racine, parfois les fleurs, je ne sais pas, Pierre.
Effectivement, la citronnelle, eh bien, c'est la tige que l'on va ciseler. Pour tulbalgia, on parlait tout à l'heure des fleurs, ce sont les fleurs que l'on consomme. Et puis, on n'a pas parlé du réglisse, mais le réglisse est aussi une plante un peu exotique particulière, qui est rustique. Et là, on va consommer les racines, un petit peu comme ce qu'on faisait quand on était jeune et qu'on mâchouillait des morceaux
de réglisse. Qu'on mâchouillait le bâton de réglisse, que ça finissait tout crado au fond de la poche. Ou du Tans, le fameux cartable de notre enfance. Merci beaucoup, Pierre Nesman, de nous avoir parlé de tout ça. Angèle Ferromac, on va faire comme si on ne se connaissait pas. Parce que vous avez droit à votre petit jingle. Pierre Nesman, merci beaucoup. Je rappelle Rustica Pratique, Mission Végétale diffusée sur M6 et votre nouveau livre, Mon jardin s'adapte au changement climatique chez Delachaux et Niestlé. Je vous souhaite un très bel été et à la rentrée, Pierre Nesman.
À la rentrée, merci. Bel été à tous. Au revoir.
Bonjour Angèle Ferromac.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue, merci d'être avec nous. Je voyais que vous étiez prête, alors je me suis dit tiens, je vais la faire venir dans la petite partie de Pierre Nesman. Et puis maintenant,
j'étais honorée.
Accueille avec cette chanson de Mika, Ice Cream. Vous êtes chef et naturopathe. Tiens, alors justement, c'est quoi la différence entre une glace et un sorbet?
Alors en fait, la grande différence, c'est que le sorbet, c'est un mélange d'eau, de fruits, d'arômes et de sucre. Donc en fait, on pourrait dire qu'un sorbet, c'est une glace à l'eau. La c'est glace, ça. En fait, elle est un petit peu plus onctueuse parce qu'elle contient du lait ou des œufs. Et puis, il y a aussi la crème glacée, là, carrément, qui contient de la crème.
D'accord. Donc, on est bien d'accord qu'entre un sorbet et une glace ou une crème glacée, nos fesses ne lui disent pas merci de la même façon.
Pas tout à fait. Parfois, voilà. Elles disent merci la bouche pleine.
Parce qu'effectivement, le sorbet est beaucoup moins calorique que la crème glacée. On peut aujourd'hui trouver tous les parfums, parce que je vous entendais dire, je me disais qu'une petite glace à la menthe chinoise, c'était intéressant.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de goûts qui se développent. On voit de tout, des plus ou moins bonnes surprises d'ailleurs, des sorbets au vin, des glaces au foie gras, au bacon, au roquefort,
c'est
au
bon
curry. J'ai même vu une glace à la mayonnaise promue par une marque de mayonnaise.
Bref,
il y en a
bon,
plein, des bizarres. J'ai pas goûté. Moi, mes préférés des bizarres, c'est le sésame noir, le charbon ou l'huile d'olive.
Le charbon?
Les glaces au charbon, bah oui, ça fait les dents noires, mais vous savez, on vous dévertue très détoxifiante et anti-flatulence au charbon.
Mais c'est ce que j'allais dire, les glaces au charbon, en fait, ça empêche de péter.
Tout à fait, exactement.
Ah bon ?
Même si, bon, le côté glacé, c'est pas très bon non plus pour notre biotope. Hein.
D'accord.
Mais alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on trouve aussi plein de formules différentes. On connaît donc les glaces, les sorbets, les glaces à l'italienne, mais maintenant on voit aussi des yaourts glacés, des popsicles, des ice rolls.
C'est quoi ça?
Si vous avez déjà
non,
vu ça.
Non.
C'est sur une sorte de plan de travail glacé. On met la préparation et avec un petit, on les gratte pour faire comme un petit rouleau glacé. Et puis, en fait, l'avantage, c'est que c'est très très frais. Ça se glace minute, donc ça peut être fait avec des produits hyper frais. Mais en France, on a tellement d'artisans qui font des glaces exceptionnelles qu'on peut. C'est un bon sujet.
Et ce qui est intéressant, parce que là, vous nous avez parlé des glaces au foie gras, ou j'imagine que la glace au maroilles peut exister tant qu'on y est. Donc, ça veut dire que la glace salée existe.
La glace salée existe et d'ailleurs il y a des bonnes surprises. Par exemple, en entrée, un petit sorbet asperge fenouil ou basilic citron ou une petite glace courge à la courge. C'est très très onctueux, servi avec un risotto. Ça marche bien. Après, j'ai vu aussi des glaces au jambon cru à Parme. Bon, j'ai pas essayé.
Oui, mais alors, effectivement, c'est que ce qui était auparavant réservé au goûter des enfants l'été ou au dessert, finalement, c'est un état, un état que l'on peut retrouver maintenant à toute étape, finalement, d'un déjeuner ou d'un dîner. On va se retrouver dans un instant parce que bon, c'est bien de les déguster, mais encore faut-il savoir les faire. Et moi, ça m'a toujours impressionné. Je n'ai jamais essayé, à part les sorbets avec mes enfants, mais je n'ai jamais essayé de faire de glace. Et vous allez nous expliquer ça dans un instant. À tout de suite, Angèle. RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Il en est au foie gras, il en est au jambon cru, il en est au maroilles. Eh ben oui, on parle de la glace, figurez-vous. Mais on peut retrouver aussi la glace aux fruits, la glace au chocolat, la glace à la vanille. Angèle Ferromac nous explique surtout comment les faire aujourd'hui. Ice Baby, c'est Vanilla Ice sur RTL. Dites-moi, Angèle Ferromac, j'arrête pas de vanter les mérites de la glace maison, grâce à vous, mais c'est quoi la différence entre une glace industrielle et une glace maison?
Bah déjà, évidemment, c'est toujours mieux quand on le fait à la maison parce qu'on n'a pas tous les édulcorants, les conservateurs, etc. qu'on peut retrouver dans les glaces industrielles. En fait, dans les glaces industrielles, ils sont au moins chers, évidemment. Donc, à la place du lait, il va y avoir de l'eau et de la poudre de lait.
Ouais.
À la place des œufs, il va y avoir ou de la poudre d'œuf ou des liants. Souvent, il y a des colorants. Par exemple, pour les glaces à la vanille, il va y avoir de l'arôme de vanille. Et pour donner ces petits points noirs qu'on voit, en fait, ce sera juste la gousse sans goût qui est séchée et mixée. Donc, il y a toujours des petites arnaques quand c'est des grands.
Oui, forcément.
Quand c'est pas cher, on paye ailleurs.
Est-ce qu'il faut toujours avoir une sorbetière pour faire une glace maison?
Non, pas du tout. C'est pas obligé, en fait. On peut vraiment les faire sans. Et puis, en plus, il y a plein d'autres choses à faire que les glaces. On peut faire des nougats glacés, des granités, des parfaits. C'est une sorte de crème anglaise avec de la meringue et tout. Donc, on peut faire plein de choses glacées, mais même la glace, on peut la faire très bien sans sorbetière.
Mais alors, comment est-ce qu'on obtient une glace onctueuse?
Alors, il y a plusieurs techniques pour qu'elle soit onctueuse. On peut monter des blancs d'œufs en neige. On peut faire une sorte de crème anglaise. Ou alors on peut, et ça moi c'est ce que je fais quand je veux faire des glaces qui sont saines, on peut mélanger, bon c'est un petit peu de travail, mais l'été quand il fait chaud on peut se permettre d'aller ouvrir notre congélo toutes les heures, on peut mélanger pour que la texture soit, parce qu'en fait les glaces c'est fait de cristaux d'eau et d'air entre autres, donc en fait il faut, pour avoir une bonne consistance, il va falloir qu'on mélange un peu toutes les heures, ça c'est l'idéal.
Ah ouais, d'accord, donc c'est quand même de l'investissement, quoi. Hein, c'est pas rien, quoi. Je veux dire, il faut se lever de son transat toutes les heures, quoi. Hein. Donc, vraiment, pour un truc qu'on va déguster en 3 minutes. Bon, alors, racontez-nous maintenant, comment je peux faire une glace ou qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller ou nous donner envie de préparer ce week-end?
Déjà, je voulais vous donner une version hyper saine, parce que faire une glace cochonne à la maison, c'est très facile.
C'est quoi une glace cochonne?
C'est une glace très très crémeuse, quoi, avec de la crème.
Ah, d'accord, c'est ça, cochon. Ok, d'accord, alors allons-y.
Mais moi, je voulais vous donner des petites recettes un peu plus saines. Flavie, je ne sais pas si vous préférez pistache framboise ou alors chocolat noisette.
Ah bah, pistache framboise, en hommage à mon papa.
Allez,
c'était son parfum préféré.
Pistache ou framboise?
Pistache.
Pistache. Alors, pour les pistaches, on va acheter, vous savez, dans les magasins bio, on trouve de la purée de pistache. Alors, attention, ça coûte assez cher, mais c'est un délice. Ouais. Donc, on va prendre une cuillère à soupe de cette purée de pistache, à peu près 300 grammes de bananes, donc les bananes bien mûres, parce qu'on n'ajoute pas de sucre. Ouais. On va congeler la veille, idéalement, les bananes coupées en gros tronçons, on les met au congélateur, et à peu près 100 millilitres de lait ou de lait végétal. On va mixer tout ça, tout simplement, ouais. Les mettre dans un Tupperware ou dans un moule à gâteau. Moi, j'aime bien rajouter dedans des vraies pistaches entières un peu concassées. Ouais. Et on va les mettre au congélateur. Soit on laisse comme ça et on laisse au moins 4 heures et on aura une consistance un peu solide mais délicieuse. Soit on mélange toutes les heures et là, on aura vraiment une consistance incroyable. Et c'est tout, en fait.
Oh, ah oui, c'est hyper simple. Alors, on peut y aller, framboise.
Ah ouais, super. Alors, framboise. Alors, on va prendre des framboises congelées, pareil. On va les mixer aussi avec du lait, 100 ml de lait. Moi, j'aime bien mettre une bonne cuillère à soupe de purée d'amande ou de beurre de cacahuète, enfin, ouais. Un petit gras comme ça qui va donner une onctuosité folle à la glace. Ouais. Et pareil, on la dépose dans un Tupperware et après, on la laisse au congélateur un moment. Et en fait, si on veut faire une glace un petit peu fantaisie, mmh. on pourra ajouter du chocolat fondu, vous savez, quand on mmh. mélangera, sans trop le mélanger pour tomber sur des morceaux de chocolat. On peut évidemment ajouter des noisettes, du caramel, enfin, on peut mettre plein de trucs dedans, tout ce qu'on veut.
Ah, on peut s'amuser, quoi. Génial. Mais alors, donc, la recette que vous venez de nous donner pour les framboises, ça vaut pour les fraises, ça vaut pour tous les fruits rouges, en fait.
Hein, pour si tout, je, si et je même comprends. Les courges.
Et même les courges, en fait. Mais alors, attendez, on les congèle. Je vais vous poser une question idiote, hein, mais la courge, on la congèle cuite?
Alors, la courge, l'idéal, c'est qu'on la congèle en saison. Donc là, par exemple, si on la congèle l'hiver, on peut...
Oh,
la
oui,
courge,
mais cuite.
On peut la congeler cuite. C'est pas obligatoire, cuite ou crue.
Ah bon? D'accord.
Oui, on peut.
Ok, d'accord.
C'est mieux cuite parce qu'en fait, elle sera déjà remplie d'eau. Et comme c'est l'eau qui va congeler, ça va mieux se conserver si elle est déjà cuite.
Quand vous parlez de lait, vous parlez du lait de vache, vous parlez de lait végétal. Et est-ce qu'il est un lait, dans ce cas-là, végétal, que vous pouvez conseiller par rapport à un autre?
Alors, mais ça, c'est une bonne question parce qu'en fait, on peut utiliser tous les laits, enfin, toutes les boissons végétales. Je sais que pour un goût un peu facile et qui marche à tous les coups, le lait végétal soja vanille, ça marche très bien. Ouais. Et moi, j'aime bien le lait de riz, le lait d'avoine, enfin, un peu le lait que vous voulez. Et si vous utilisez du lait de vache, vous pouvez même utiliser du lait de chèvre, hein, d'ailleurs. C'est très bon aussi.
Oh, dis donc, en glace, ça doit être quelque chose.
Ouais,
c'est de la glace à la biquette, quoi.
Ouais. Mais c'est bon, une glace au foin faite avec du lait de chèvre.
Mais il paraît que c'est très bon, la glace au blé. Vous connaissez ça?
La glace au blé, c'est délicieux.
Ouais.
Et c'est fait un petit peu... On peut le faire à la maison, d'ailleurs, c'est assez facile. Hein. On fait torréfier notre blé. On peut le laisser infuser, par exemple, dans du lait pendant ouais. une demi-heure à feu très, très doux. Moi, j'aime bien rajouter toujours un peu de vanille ou ce genre de choses. Et ensuite, on va filtrer. On peut même concasser le blé si on veut pour en mettre des petits morceaux. Et après, par le même procédé dont je vous ai parlé, en fait, on va le congeler. Ça va être facile. Hein.
On sort la glace combien de temps avant sa dégustation, Angèle?
Alors moi, j'aime bien la sortir au moins 3 minutes avant, même 5, parce que ça, quand elle est trop dure, c'est quand même pas pareil.
D'accord. Ok. Et comment est-ce que j'agrémente ma glace? Je peux mettre des trucs dessus?
On peut mettre des trucs, on peut mettre absolument tout ce qu'on veut. On peut prendre exemple, vous savez, de ces glaces, parce que tout à l'heure, on parlait des calories. En fait, la plus grande méfiance par rapport aux glaces, c'est pas tellement les glaces artisanales et les sorbets et tout ça. C'est surtout les barres chocolatées glacées qui, en fait, ont la même composition presque que les barres chocolatées normales,
arrête.
Donc la même teneur en sucre. Donc, c'est leur équivalent non glacé, quoi. Et le pire, c'est les plus mesquines, c'est les glaces qu'on dit dites à l'américaine. Donc, vous savez, c'est ces gros pots de crème glacée, qui sont justement très agrémentés de plein de petits trucs. Donc, elles, sous leur camouflage de glace, en fait, on a l'impression d'avoir un dessert un peu healthy. Et en fait, il y a l'équivalent d'un en calories d'un millefeuille dedans, quoi.
Okay,
elles
d'accord.
sont super grasses et super sucrées.
Et puis c'est des super gros pots et donc évidemment on a envie de le terminer. Angèle Ferremac, c'était super, merci beaucoup.
Merci à vous
pour cette invitation et puis merci aussi pour toute la saison qu'on a passée ensemble.
C'était extraordinaire.
On va se retrouver de toute façon dès la fin du mois d'août, dès début septembre pour la première de Nous Voilà Bien de la prochaine saison. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite un bel été. Et
bonne
je conseille votre livre « Bon, simple et sain, mes petits plats du quotidien pour se faire du bien » aux éditions Marabout et puis évidemment La Guinguette d'Angèle à Paris. Alors là, on vous a préparé une petite chanson pour la dernière. Voilà l'été. Merci beaucoup Angèle Ferremac, c'est déjà la fin de Nous Voilà Bien, une belle saison passée si vite en votre compagnie, un grand merci à vous tous pour votre fidélité, en attendant de nous retrouver, ce sera le 28 août justement, vous pouvez réécouter cette émission et toutes les autres sur Radio Player France, la semaine prochaine et tous les samedis de juillet et d'août, c'est Jérôme Anthony qui prendra le relais en musique avec Stop ou Encore. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, un bel été ensoleillé, à l'écoute de votre radio préférée, prenez bien soin de vous et de vos proches, je vous donne rendez-vous à la rentrée sur RTL, juste après les infos, c'est RTL qui vous régale. Je vous embrasse, bel été à vous.
Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien.